franceinter.fr.
À 6h, c'est le journal d'Hélène Roussel. Bonjour Hélène.
Bonjour. Le jour de carence rétabli chez les fonctionnaires et puis 120 000 postes supprimés d'ici 5 ans. Le gouvernement et ses priorités. Le G20 à Hambourg en Allemagne. Plusieurs milliers de manifestants. Hier soir contre la police, plusieurs dizaines de blessés, quelques interpellations. Trump, Poutine, ce sera aussi la poignée de main en marge de cette réunion du G20 qui est très attendue. Elle sera sans doute musclée face à face, scrutée dans le monde entier. Les orages n'ont pas fait baisser la température. 35-36 degrés attendus aujourd'hui dans le Centre-Est, alerte canicule dans 8 départements. Attention aux coups de chaud au volant avant de pouvoir mettre les pieds dans l'eau. Premier gros départ en vacances sur les routes ce soir et demain.
France Inter. Des économies annoncées dans la fonction publique, Hélène.
Oui, le gouvernement a bien préparé les esprits. Les comptes de la France sont plus rouges que prévu. 4-5 milliards à trouver pour rester dans les clous de Bruxelles. C'est la petite chanson depuis une bonne semaine. Mais si on regarde de près, tout était déjà écrit ou sous-entendu dans le programme du candidat Macron. Pas trop de surprise donc quand hier le ministre des Comptes publics, Gérald Darmanin, confirme la suppression de 120 000 postes de fonctionnaires et rétablit aussi le jour de carence. Les congés maladie pris en charge par l'État dès le premier jour, c'est terminé. La loi en prévoit 3 comme ça dans le privé, sauf que dans le privé, la perte de salaire est très souvent compensée. Ce n'est pas le cas dans le public, peu importe. Le gouvernement veut surtout éviter le micro-absentéisme à l'hôpital, par exemple, et qui coûte plusieurs millions d'euros chaque année. Clara Lecoq-Réal.
Dissuader les fonctionnaires de poser des arrêts maladie. Le ministre des Comptes publics, Gérald Darmanin, voit dans ce jour de carence un moyen de lutter contre l'absentéisme tout en faisant des économies.
Nous allons proposer, c'est les parlementaires qui le décideront, que nous puissions rétablir une journée de carence afin de rétablir de l'équité entre le public et le privé. Et j'ai dit le fait d'avoir supprimé une journée de carence a malheureusement fait 40% de micro-absentéisme dans la fonction publique. C'est 170 millions d'euros en moins dans le budget d'État.
Une fois la loi de finances pour 2018 adoptée par le Parlement, le premier jour d'arrêt maladie ne sera donc plus indemnisé pour les fonctionnaires. Une mesure qui avait déjà été instaurée par Nicolas Sarkozy, puis supprimée sous François Hollande. Et le syndicat de la fonction publique, la FSU, dénonce donc une vieille recette, sa secrétaire générale Bernadette Groison.
On cherche les fonds de tiroir, quelques millions d'économies, mais enfin, le sujet n'est pas là. Ce qu'il faut traiter, c'est pourquoi des agents aujourd'hui sont absents. Ce n'est pas une mesure d'égalité avec le secteur privé, nous le savons. Il n'y a pas de convention collective qui prend en charge la journée de carence dans le public. Donc c'est une injustice pour les fonctionnaires et qui ne réglera pas le problème.
Les fonctionnaires, dont le nombre sera par ailleurs réduit, moins 120 000 postes sur 5 ans, dit le ministre, au minimum. Et les non-remplacements commenceront dès l'année prochaine.
Des sacrifices dans la fonction publique donc, et puis des promesses fiscales reportées. À quelles échéances le gouvernement doit pondre un calendrier d'ici la fin de l'année? Le gouvernement qui sait aussi faire des efforts pour attirer les investisseurs étrangers, séduire les exilés du Brexit notamment. Le Premier ministre doit annoncer toute une série de mesures aujourd'hui. L'allègement des charges sur les très hauts salaires de la banque ou de la finance. Édouard Philippe envisage notamment de supprimer la dernière tranche de taxe sur les salaires, ce qui pourrait coûter 130 millions d'euros à l'État. De plafonner aussi les indemnités prud'homales ou encore d'en finir avec la taxe sur les transactions financières. Le jeu en vaut la chandelle, selon le gouvernement, qui rappelle que la France prélève 10 fois plus de charges que l'Allemagne, par exemple.
L'espoir à nouveau permis chez les salariés de GMS.
Ils ont fini par lever le blocage du site de PSA dans l'Allier. Les derniers sont partis vers 22h hier soir, car la CGT du sous-traitant automobile, toujours en liquidation judiciaire, a décroché un accord avec le gouvernement sur l'ordre du jour de la prochaine discussion à Bercy. Ce sera le 11 juillet. Il sera question du repreneur, du nombre de postes sauvés et des indemnités de licenciement. Des salariés qui restent prudents et déterminés. Patrick Brun de la CGT.
Sur le nombre des emplois repris, là-dessus on ne sera jamais d'accord. On tombera sur un accord, mais on ne sera jamais d'accord. La prise en charge des salaires jusqu'au 31-8, pour nous c'est primordial parce que le repreneur GMD veut reprendre le site à partir du 1er septembre. Et sur l'accompagnement social des indemnités des salariés non repris, si d'entrée, ils nous disent « il n'y a rien », on repart au combat. Et là, les gars, est-ce que vous êtes prêts à repartir ?
Oui !
Donc le message est passé. On lève le siège. Par contre, s'ils nous baissent la gueule, on repart. On repart au mastic. On lâchera rien. On est combatif et on ne se laissera pas avoir encore et encore. On veut bien faire des efforts, on en a fait tout le temps. Sur l'accompagnement social des indemnités des salariés non repris, pour nous, c'est une négo qui s'engage. Jusqu'à présent, la porte était fermée. C'était non. Donc si c'est inscrit à l'ordre du jour, on veut que ce soit négocié.
Le délégué CGT de GMES au micro de François Madoff de France Bleu Creuse. Le repreneur aurait d'ailleurs élargi son offre et prévoit de sauver entre 120 et 240 emplois sur les 277. Le dossier passe devant le tribunal de Poitiers dans moins de 3 semaines. L'explosion d'un four à métal en fusion hier soir dans l'usine sidérurgique d'Ascométal à Fos-sur-Mer dans les Bouches-du-Rhône. Pas d'incendie derrière, pas de victimes, 2 personnes seulement légèrement blessées.
Situation critique pour les migrants à Paris.
Entre les déchets, la pollution des voitures, le bruit du métro et la gale, le quotidien d'un millier de réfugiés qui campent actuellement Porte de la Chapelle, dans le nord de la capitale, tout près d'un centre d'accueil totalement saturé. Tous ces réfugiés devraient être évacués et mis à l'abri dans les heures qui viennent pour la 34e fois en 3 ans. Mais très vite, d'autres prennent la place. Et en attendant les arbitrages la semaine prochaine du ministre de l'Intérieur, Anne Hidalgo, la maire de Paris, propose des pistes, clés en main, texte envoyé à tous les parlementaires hier, base d'un projet de loi sur l'accueil et l'intégration. Yann Gallic.
Anne Hidalgo plaide pour une meilleure répartition des migrants sur tout le territoire en fonction de critères démographiques et économiques. La maire de Paris propose notamment de créer des centres d'accueil humanitaire comme celui de La Chapelle dans les autres grandes villes. Elle veut également réduire à 6 mois le délai maximum pour traiter les demandes d'asile. Au-delà de l'urgence, il faut aussi mettre en place, dit-elle, une véritable politique d'intégration.
Cette proposition comporte des mesures nécessaires. Un changement d'échelle des dispositifs de formation linguistique et l'accès à des cours de français avant l'obtention du titre de séjour. La généralisation de l'expérience menée en Île-de-France et dans les Hauts-de-France du parcours tout en un, où sont associés apprentissage du français, accès à la formation qualifiante et hébergement.
Des propositions saluées par les associations. Aurélie Alassac-Marzorati est la directrice adjointe d'Emmaüs Solidarité qui gère le centre de La Chapelle. Ce centre pour les migrants est aujourd'hui complètement saturé.
Ce centre humanitaire est une solution, mais ce n'est pas la solution. Il faut d'autres centres humanitaires comme celui-ci. Je me réjouis de la proposition de loi qui est faite par Anne Hidalgo. Cette proposition de loi qui va enfin nous permettre d'accueillir toutes ces personnes de façon digne, quelle qu'elle soit.
Anne Hidalgo espère maintenant que les parlementaires reprendront ses propositions pour adopter une loi sur l'accueil des migrants avant la fin de l'année.
Et on apprend à l'instant que l'évacuation du campement, de ce campement Porte de la Chapelle, donc à Paris, est actuellement en cours et a commencé. Pas de surprise, le Parlement a donné son feu vert hier à une 6e et en principe dernière prolongation de l'état d'urgence en France, valable jusqu'au 1er novembre. D'ici là, le gouvernement va faire passer sa nouvelle loi antiterroriste qui devrait pérenniser certaines mesures exceptionnelles. Spectacle attendu comme à chaque G20, des militants dénoncent les inégalités sociales croissantes. Hier soir, à la veille de l'ouverture à Hambourg, en Allemagne, un grand concert contre la pauvreté et la faim avec Coldplay et Shakira. Et puis dans la rue, un peu plus tard, la manifestation qui dégénère. La police annonce 76 blessés dans ses rangs, plusieurs blessés chez les manifestants, 5 interpellations. Ambiance tendue, donc à l'image d'un sommet où les puissants du monde se retrouvent pour 2 jours en mode crispé. Nombreux sujets conflictuels entre notamment Donald Trump et les autres dirigeants, sur le commerce ou encore sur le climat. En marge de cette réunion, pour la première fois depuis son élection, le président américain doit rencontrer Vladimir Poutine face à face, très attendu.
Les orages n'ont pas fait baisser la température.
Des orages violents par endroits, nombreux dégâts, 1 blessé léger dans les Hauts-de-France, mais aujourd'hui avec 35-36 degrés attendus dans le centre-est, c'est l'alerte canicule dans 8 départements. Et attention aux coups de chaud au volant. Premier gros départ en vacances ce soir, sur les routes c'est du orange et même du rouge en région parisienne. Pour savourer les grasses matinées et la sieste estivale, un conseil, gardez les yeux bien ouverts. Car selon cette étude MMA, 83% des conducteurs dorment moins la veille du départ. La somnolence au volant entre sans frapper, nous rappelle Fabien Delacaze, en charge des actions de prévention routière chez l'assureur.
Personne ne fait exprès d'être en somnolence. Quand on boit trop, quand on roule trop vite, on sait que c'est mal et on sait qu'on peut être verbalisé. Quand on n'a pas assez dormi la veille d'un départ en vacances, on n'a pas conscience qu'on prend un risque. Or, si on dort 5 heures ou moins, on multiplie par 3 le risque de somnolence. Généralement, c'est des tensions dans la nuque, des picotements dans les jambes, l'envie de changer de position, parfois même des bâillements. Et on a vu dans cette étude qu'il y a près de 60% des Français qui pensent qu'en buvant un café, ils vont se débarrasser de ce sentiment de fatigue. Pareil, il y a des Français dans cette étude qui nous disent « j'ouvre la fenêtre, je mets de la musique », mais tout ça, malheureusement, ça ne sert à rien. Le vrai bon conseil, c'est notamment de faire des pauses toutes les 2 heures. 15 minutes, c'est suffisant, et 15 minutes sur un trajet de plusieurs heures, c'est rien, donc ça vaut vraiment le coup.
Fabien Delacaze avec Rosalie Lafarge. Enfin, la voix d'un autre temps peut-être. Tupac, le grand nom du rap américain tué en 1996, a mis fin à sa relation avec Madonna à l'époque parce qu'il craignait qu'une liaison avec la superstar blanche ne nuise à son image. Être vu avec un homme noir ne ferait aucun mal à ta carrière. Au contraire, pour moi, ça serait revenu à laisser tomber la moitié des gens qui m'ont aidé. On peut lire ça dans une de ses lettres qui a été rendue publique hier par le site TMZ.
6h10 sur France Inter, c'était le journal d'Hélène Roussel. Le temps.
La météo avec Sarenza. Changez de chaussures comme de saison avec 700 marques mode pour toute la famille. Sur l'appli Sarenza et sur sarenza.com.
Beaucoup moins d'orages pour aujourd'hui, Elodie Calac.
Un temps plus calme aujourd'hui. Au nord de la Seine, les orages de la nuit se sont éloignés. On commence la journée sous le soleil. Alors il faut quand même composer avec des nuages bas sur le littoral de la Normandie vers la Bretagne et la Charente. De la grisaille aussi vers le sud de l'Aquitaine, le littoral du Roussillon. Et puis il y a encore quelques orages au menu entre la Lorraine, l'Alsace, la Bourgogne et le Jura. Il a fait trop chaud cette nuit. La vigilance canicule persiste dans le centre-est. On a 13 degrés à Brest ce matin, 19 au Mans, 20 degrés à Paris, Metz, Bourges, Bordeaux, Toulouse ou Marseille, jusqu'à 21 à Lyon. Cet après-midi, souvent 29 à 35 degrés, un peu moins vers la Manche, mais jusqu'à 35 à 37 degrés dans le sud.
La route, Laurent Borde, bonjour.
Bonjour.
Bonjour Laurent. Un poids lourd en feu dans la Nièvre ce matin.
Oui, c'est ça. Un poids lourd en feu sur l'A77 entre Paris et Nevers, en direction de Nevers au niveau de la Marche dans la Nièvre. C'est juste avant la sortie numéro 30. La circulation s'effectue uniquement sur la voie de gauche. Et puis en région parisienne, en raison de l'évacuation d'un camp de migrants, les accès vers la Porte de la Chapelle et Paris-Centre depuis le périphérique dans les deux sens, ainsi que depuis l'autoroute A1 sont actuellement fermés.
Tous les dimanches de l'été sur France Inter, à partir de 17h.
À ton âge, des histoires pour mesurer le temps qui passe.
Caroline Gillet.
Quand j'ai rencontré Pascal il y a 2 ans, il disait qu'être agriculteur, c'est semer et récolter 30 fois. Qu'il était près de la retraite et qu'il ne savait pas si ses enfants allaient reprendre l'exploitation. Alors pendant 2 ans, j'ai suivi leur histoire.
À ton âge.
Dimanche sur France Inter, à partir de 17h.
Voilà.
6h10.
Le 6-7. Sur France Inter.
Bienvenue dans le 6-7 de France Inter au programme ce matin, juste après le journal des sports prétoire, notre rendez-vous judiciaire du vendredi. Portrait de la nouvelle garde des Sceaux, Nicole Belloubet, une garde des Sceaux atypique, nous expliquera Jean-Philippe Degnaud. 6h45, le carrefour culturel du 6-7 pour cet ultime rendez-vous de la saison. Frédéric Pommier nous dressera un bilan musical des 3 dernières années de ce carrefour. Enfin, toujours de la musique avec Magic Elvis, le feuilleton quotidien de Philippe Robin, consacré à Elvis Presley. Ceci bien sûr à l'occasion du 40e anniversaire de sa disparition. Ce matin, premier étage de Graceland, la demeure d'Elvis Presley à Memphis. Ce premier étage reste inaccessible aux visiteurs. Mais tout de suite, reportage.
France Inter, le 6-7. Grand angle.
À l'approche de l'été, les compétitions insolites fleurissent dans les petites communes. Des concours de cracher de noyaux d'olive, mais oui, ça existe. Des championnats de lancer de tongs, ça existe aussi. Des descentes de rivière en caisse à savon. Alors exemple, ce matin, chez Rancé, le Roussel dans la Manche, qui invite ce dimanche tous ses habitants et bien sûr les touristes de passage à des courses d'escargots. Sandrine Houdin a assisté à une séance d'entraînement.
Et reste en ligne, Gaston. Allez, accélère. On y va.
Il va sans salade. Il va tout seul comme un grand sans salade. Il est pas dopé. Il est arrivé sur la ligne.
Ils font cela 2 à 3 fois par semaine. Leur écurie compte 90 gastéropodes. Cette Britannique n'en revient pas.
Super. Je regarde.
Ça existe en Angleterre, ça?
Non. Je parle avec les amis qui disent non. Tu fais le course des escargots? Je dis oui.
T'en dis où toi, Pascal, là-bas?
Ça avance un petit peu. Il y en a un, il est parti à l'envers. Il n'a pas compris.
Tu ramènes la salade par là, comme ça il va revenir un peu.
Allez.
Claude Pigeon, l'entraîneur.
C'est le nôtre, là.
Il avance à combien de kilomètres heure, Claude?
Il fait 5 mètres à l'heure. Pour traverser une route, il lui faut 1 heure.
Vous croyez vraiment en l'entraînement?
Mais bien sûr. Si on les habitue pas à aller tout droit, l'escargot, il va pas suivre sa ligne droite. Regardez celui-là. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Lui, il n'a pas compris. Toi, tu vas de l'autre côté, là. Allez. Hop! Tous les 2-3 soirs, on les sort, ils prennent l'air, ils prennent l'habitude de courir.
Courir droit et courir vite. Astuce.
Là, on va lui mettre une petite remorque. On met une petite ficelle sur la coquille. On va l'atteler. Qu'est-ce qu'elle fait, la remorque? Elle avance. Hop, ça avance bien. Un escargot peut tirer jusqu'à 10 fois son poids.
Mais ça les entraîne, ça, pour le concours?
Ah bah, ça leur donne de la force.
Dimitri, le vôtre, c'est lequel?
Moi, c'est Alphonse.
Mais là, il bouge pas du tout, là.
Non, il fait n'importe quoi, là. Alors, Alphonse.
Sur le...
Allez, il va monter sur la salade. Allez, c'est parti.
Tu avances.
Et vous pariez quoi?
On parie quoi?
Oui.
Bah, un titre de course d'escargot.
Bah, oui.
Qu'est-ce que vous avez envie de répondre à des personnes qui vous diraient, mais c'est complètement débile?
Tout ce qu'on va leur dire, eh ben venez voir si c'est bête.
Qu'est-ce qui vous éclate, Claude?
On ralentit à la vitesse d'un escargot. Aujourd'hui, avec Internet, avec toute la vie, on est tous à vivre à 100 à l'heure, Et bien là, avec un escargot, on se pose, on est calme, on prend le temps de voir l'escargot faire ce qu'il a à faire. Et on prend le temps de vivre, d'apprécier tranquillement le temps qui passe. Voilà.
C'était le grand angle de Sandrine Houdin, reportage sur les courses d'escargots. On ne sait pas si à la fin, on les mange.
France Inter, le 6-7.
C'est le journal des sports. Bonjour Cédric Langrotte.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous.
Nouvelle arrivée au sprint pour le Tour de France et le scénario avait comme un goût de déjà vu.
Alors pas de chute, hein. Heureusement dans les derniers mètres de cette sixième étape hier à 3, mais bien l'Allemand Marcel Kittel qui s'est imposé en force devant le Français Arnaud Démare et un autre Allemand, André Greipel. C'est exactement le même podium dans le même ordre que dimanche dernier à Liège et on sent déjà que l'un des duels de cette édition 2017 est en train de se dessiner. Kittel démarre pour l'instant avantage au premier et pour son coéquipier chez Quickstep, c'est logique. Philippe Gilbert l'assure, Marcel Kittel est au-dessus du lot.
C'est un coureur qui est hors gabarit, il est unique en son genre, il est bâti presque comme un boxeur et je vais dire son poids et sa largeur l'avantage certainement sur ce genre d'arrivée où ce sont des sprints. Je veux dire, moi j'étais à l'arrière sans pédaler, j'étais encore à plus de 50 à l'heure, donc j'imagine qu'eux ils sont allés à pratiquement 70 comme à Liège, donc c'est des sprints extrêmement rapides et qui l'avantagent.
Reste qu'Arnaud Démare, vainqueur lui d'une étape à Longwy, n'a pas dit son dernier mot, il porte toujours le maillot vert du classement à points ce matin et l'étape d'aujourd'hui entre Troyes et Nuits-Saint-Georges dans le vignoble de Bourgogne pourrait bien lui donner l'occasion de prendre sa revanche. Elle est plutôt plate et devrait se conclure encore une fois par un sprint massif, synonyme justement de points. Arnaud Démare.
C'est pas parce que j'ai envie de marquer des points que c'est un objectif. J'essaie juste de conserver la petite avance que j'ai parce que le tour c'est 3 semaines, c'est très long. Donc on sait jamais, un sprint non disputé à l'arrivée, on peut vite dégringoler. Donc non, le but c'est de marquer petit à petit des points et puis vraiment voilà, on en saura plus d'ici une semaine.
Au classement général, pas de changement. Christopher Froome conserve son maillot jaune. Le premier français, c'est Romain Bardet. Il est 7e. Et ils seront 193 tout à l'heure, à 12h05, à prendre le départ de la 7e étape. 213 km au compteur, avec une petite bosse de 4e catégorie, la côte durcie, pour pimenter le programme.
193 coureurs dans le peloton, donc. Et puis, il y a ceux que l'on appelle les petits bleus.
Ouais, ceux qui découvrent la grande boucle. Ils sont 49 cette année à vivre leur premier Tour de France. Et c'est forcément une sacrée expérience. Fanny Lechevestrier.
C'est, ça donne vraiment le frisson.
Près d'une semaine après le départ et déjà 1014 km de course, le jeune Élie Gébert, 22 ans, a encore les yeux qui brillent quand il parle du Tour de France et ce n'est pas de fatigue.
Tous les jours, c'est un plaisir d'être au départ. Ça fait un petit peu mal aux pattes quand ça roule un petit peu à bloc toute la journée comme ça, mais c'est vrai que aucun regret d'être là. C'est quand même énorme.
À ses côtés, Romain Hardy, 28 ans, n'en perd pas une miette non plus, émerveillé lui aussi d'être enfin un des acteurs du spectacle.
C'est vraiment extraordinaire, déjà de monde au bord des routes. Dans les grimpeurs, on voit la foule s'écarter quand on passe, c'est vraiment... D'habitude, je le voyais à la télé, maintenant, c'est moi qui suis sur le vélo, donc ça, c'est vrai que c'est vraiment grandiose.
Pourtant, des courses, il en a vu d'autres, comme le Tour d'Espagne, mais rien à voir.
L'allure aussi, qui est quand même assez rapide, et puis surtout les 50 derniers kilomètres qui sont vraiment... Il y a une tension dans le peloton qu'on ressent nulle part ailleurs.
Après, découvrir le Tour comporte également son lot de souffrances et de galères, loin d'un rêve comme pour Olivier Le Gac.
Pour l'instant, je prends zéro plaisir. J'espère autre chose, quoi, parce que c'est plus la galère qu'autre chose.
Le néophyte breton, malade, occupe la 193e et dernière place du général. À 3, Fanny Lechevestrier, France Inter.
On passe au tennis, Cédric, avec la suite de Wimbledon.
Avec 3 Français alignés aujourd'hui en 16e de finale. Caroline Garcia seule dans le tableau féminin après la défaite hier de Kristina Mladenovic. Caroline Garcia donc sera face à l'américaine Madison Brangley. Chez les hommes, Benoît Paire affrontera le géant polonais Jerzy Janowicz, 2m04. Et Joe Wilfried Tsonga retrouvera ce soir l'américain Sam Querrey qui l'a déjà battu à 4 reprises. Hier, Gilles Simon s'est fait sortir par Dominic Thiem. Qualification en revanche d'Adrian Manarino et de Gaël Monfils. Les deux se feront d'ailleurs face au prochain tour. Monfils qui a décroché hier sa première victoire sur le central du tournoi londonien.
Je suis content, un premier match gagné sur central. Bonne stat, peut-être que toute ma vie je rejouais plus sur central, donc je la garde celle-ci. Quoi. Je préfère le châtrier forcément. Mais après, voilà, ça reste un beau terrain mythique, mais c'est celui après le Châtrier, le H et le Lever.
Voilà, les autres cours des tournois du Grand Chelem, on sait que mon fils n'aime pas trop le gazon, ça va pas faire plaisir à nos amis britanniques, qui classent comme ça le central de Wimbledon en 4e position. À noter aujourd'hui également Nadal et Murray qui jouent tous deux leur 16e de finale.
Merci Cédric, c'était le journal des sports de Cédric Langrotte. Les titres de la presse ce matin avec un léger vent de scepticisme à la une du Figaro et du Parisien aujourd'hui en France. Climat, que vaut le plan Hulot, se demande le Parisien. Fini l'essence, fini le diesel. Hulot est-il réaliste, se demande de son côté le Figaro. Le nouveau ministre de la Transition énergétique a présenté hier son plan climat avec une mesure phare, la promesse de la fin des voitures essence et voitures diesel d'ici 2040. Un plan ambitieux, révèle le Parisien, avec des associations qui ne demandent qu'à croire à tant de promesses. Des promesses certes, mais pourtant, explique le Figaro, les premiers concernés, les constructeurs automobiles, sont prêts à relever le défi car ils sont déjà bien engagés dans l'électrique. PSA a annoncé au printemps qu'en 2023, 80% de sa gamme serait électrique. Chez Renault, la Zoé, voiture urbaine, elle aussi électrique, fait désormais un carton. Un numéro spécial ce matin de Libération consacré aux rencontres photographiques d'Arles qui se tiennent en ce moment. Le Libé des photographes vous propose de passer en revue l'actualité du jour à travers l'œil des photographes présents cette année. Et pour illustrer le plan climat de Nicolas Hulot, vous découvrirez les photos de Gédéon Mendel sous le titre « Un monde qui se noie ». On termine avec la une des Échos et cette bonne nouvelle sur le front économique. Cadre, les embauches à un niveau record, titre le quotidien des affaires. 25 000 recrutements, 250 000 recrutements attendus cette année, plus de 240 000 en 2019. Un secteur caracole en tête, une embauche sur quatre de cadres est prévue dans l'informatique. Voilà pour les titres du jour.
France Inter, Stéphane Leneuf, le 6-7.
Dans le prétoire, la chronique du service enquête justice de France Inter. Ce matin, on s'arrête place Vendôme avec vous, Jean-Philippe Dogniaux. Retour sur la nomination d'une ministre de la justice, pas vraiment comme les autres. Elle était hier l'invitée du 7-9 de France Inter. À l'exception de Pierre Arpaillanche, à la fin des années 80, Nicole Belloubet est en effet la première garde des Sceaux à ne pas être issue du monde politique, Jean-Philippe.
Oui, à part quelques années passées à la mairie socialiste de Toulouse, au conseil régional de Midi-Pyrénées, conseillère culture et éducation, Nicole Belloubet est une pure juriste, prof de droit, membre du conseil constitutionnel, auteur de nombreuses publications juridiques, un profil atypique, observe Mathieu Delahousse, journaliste à l'Obs et auteur de Justice, le ministère infernal.
Elle est atypique parce qu'effectivement, au moment de sa nomination, il y avait 400 personnes à Paris qui la connaissaient, j'allais dire, sur le bout des doigts, et le grand public ne la connaissait absolument pas. Elle n'a pas eu de carrière publique, elle a eu une carrière d'un petit monde judiciaire, éminemment respectable, mais assez fermé sur lui-même.
Le grand public et le monde politique non plus?
Non, le monde politique ne la connaît pas, et il y a une sorte d'inversion des rôles en réalité. On parle toujours des hommes politiques comme un éléphant dans un magasin de porcelaine quand ils arrivent dans la justice. Mais là, c'est un petit peu l'inverse. Elle arrive comme une espèce de virtuose funambule très fine et très précieuse au milieu d'un monde politique qui est très cruel et qui est une espèce de jungle.
Alors, Nicole Belloubet n'est peut-être pas une politique, mais elle est juriste, normalement, cela devrait aider.
Eh bien, pas forcément. Connaître le droit, ce n'est pas connaître le fonctionnement de l'institution, ni même les magistrats, les avocats, les personnels pénitentiaires, les agents administratifs qui la composent. Nicole Belloubet en est consciente. Elle va devoir commencer par s'en imprégner cet été, comme l'avait fait une de ses prédécesseurs, se souvient Mathieu Delahousse.
Il y avait Elisabeth Guigou, qui est spécialiste de l'Europe et spécialiste de l'économie. Elle est nommée en 97 garde des Sceaux dans l'équipe Jospin, qui se veut une équipe d'élite au niveau politique et technique. Et elle va passer son été à réviser une matière qu'elle ne connaissait absolument pas. Elle n'était jamais rentrée dans une prison. Elle ne lisait pas les pages des faits divers. Elle ne s'intéressait pas non plus au terrorisme, ni même aux affaires. Et elle va devoir réviser en 3 mois sa grande plongée qui aura lieu en septembre. Et Elisabeth Guigou, en 97, va lui tomber la crise des prisons dans le sud-est, va lui tomber dessus l'une première affaire DSK, c'est l'affaire de l'AMNEF, et va lui arriver en cascade toute une série d'affaires qui ne sont pas du tout des affaires techniques, mais qui sont des affaires de l'urgence et qui sont des affaires éminemment politiques.
Vous conseillez à Nicole Belloubet de réviser pendant l'été, alors c'est ça?
Elle va réviser pendant l'été, elle va surtout combler tout ce qu'elle ne sait pas. Et ce qui est très paradoxal, c'est que tous ces grands professeurs de droit ont une connaissance parfaite, à mon avis, de la Convention européenne des droits de l'homme, de la hiérarchie des normes, des diarchies dans les tribunaux, mais elle n'a aucune connaissance, par exemple, du fait qu'il soit difficile de quantifier mentionnait aujourd'hui à la maison centrale de Lannemezan que les parloirs famille soient difficiles à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis. Et elle va devoir se plonger dans le concret parce que bizarrement, on va la juger dans le concret et pas dans les grands textes normatifs.
Alors Jean-Philippe, est-ce que ça veut dire qu'elle part avec un handicap ?
Oui, forcément. Par exemple, sur la question sensible du budget de la justice, elle aura certainement beaucoup plus de mal à se battre avec Bercy que son prédécesseur Jean-Jacques Urvoas, qui était ancien président de la commission des lois de l'Assemblée nationale. Alors, comment y parvenir ? Mathieu Delahousse a un petit conseil pour Nicole Belloubet.
Tous les gardes des Sceaux de la Ve République racontent qu'ils sont arrivés avec, en général, une vingtaine de projets, qu'ils voulaient balayer beaucoup de choses, et que pour des tas de raisons, tout ça s'est effondré. Et souvent, il y a un énorme sentiment d'amertume. On dit souvent que c'est le dernier ministère que l'on occupe, d'ailleurs, dans une carrière politique, parce que on échoue nécessairement. Celui qui vient de partir de la place Vendôme, après la parenthèse Bayrou, c'est Jean-Jacques Urvoas. Et Jean-Jacques Urvoas, il a échoué, y compris sur les éléments qu'avait promis François Hollande, c'est-à-dire la réforme du Conseil supérieur de la magistrature. C'était prévu, il y avait une autoroute politique, et ça, pour des raisons notamment parlementaires, c'est tombé à l'eau. Et donc, le conseil, c'est d'effectivement peut-être ne pas avoir 20 projets sur les prisons, sur les tribunaux de commerce, sur la justice familiale et sur l'immobilier, mais peut-être garder quelques deux piliers qui sont peut-être, par exemple, préserver les libertés publiques face au rouleau compresseur de la lutte antiterroriste.
Mathieu Delahousse, auteur de Justice, le ministère infernal chez Flammarion. Merci en tout cas Jean-Philippe Degnaud, c'était le dernier prétoire avant les vacances. Toute l'équipe du service enquête justice de la rédaction de France Inter revient le 1er septembre, et ceci pour une 8e saison.
Ça va ? T'as l'air épuisé.
Ah, je dors plus depuis des mois.
T'as rencontré quelqu'un ?
Non. J'ai été cambriolée.
Ah, pardon.
Un cambriolage ne dure pas plus de 8 minutes. Ses conséquences, si. Protégez votre foyer et vos proches avec le système d'alarme Verisure qui détecte les cambriolages avant qu'ils ne se produisent. Appelez vite le 3112 ou rendez-vous sur verisure.fr.
France Inter.
On aime.
On aime.
On vous en parle.
France Inter, partenaire des Nuits de Fourvière jusqu'au 5 août à Lyon. Brian Wilson, le grand architecte de Pet Sounds, célèbre l'album mythique des Beach Boys. Un demi-siècle plus tard, avec deux autres piliers des Beach Boys, Brian Wilson monte sur scène pour vous faire redécouvrir Good Vibrations, I Get Around ou Surfing USA. Brian Wilson avec Al Jardine et Blondie Chaplin, le 17 juillet aux Nuits de Fourvière. Les Nuits de Fourvière, un événement France Inter. Plus d'infos sur franceinter.fr.
Le temps.
La météo avec Sarenza. Ballerines, sandales, baskets, des chaussures pour tous les temps, dans l'air du temps. Sur l'appli Sarenza et sur sarenza.com.
Bonjour Marie-Pierre Planchon.
Bonjour Stéphane.
Youpi, les orages sont passés, c'est ce qu'on a envie de dire.
Plus de vigilance orange, mais nous avons toujours cette vigilance orange canicule qui concerne donc depuis hier 8 départements du centre-est, du Jura au Puy-de-Dôme jusqu'à l'Isère. Car la chaleur s'est installée, le mercure va monter aujourd'hui jusqu'à 38 à Grenoble, voire 40 dans cette région. Alors ce matin, on retrouve encore les résidus orageux d'hier sur l'Alsace-Lorraine, la Franche-Comté, la Bourgogne, avec quelques orages possibles, mais beaucoup moins virulents qu'hier. On retrouve aussi quelques entrées maritimes de la côte bretonne à la côte vendéenne, mais aussi plus au sud des côtes du Pays Basque, au Roussillon. Et puis dans la journée, le vent d'automne va se lever.
La nuit est restée très très chaude.
Et oui, à Paris, on n'est pas descendu en dessous des 23 et à cette heure-ci, on a perdu un petit degré, il fait tout juste 22. Vous avez 20 à Bordeaux, vous vous réveillez avec 18 à Dunkerque, 21 dans le Cher, 24 à Lons-le-Saunier ou à Lyon. Le plus frais, c'est à Brest avec 13 degrés. En journée, ça va être encore très dur pour toutes les régions, excepté sur la pointe Bretagne, où ce sera beaucoup plus tenable avec 23 degrés. Vous aurez 25 sur les côtes de la Manche, vers Cherbourg, et à Paris, à Mulhouse ou à Ajaccio, vous aurez 32 degrés. Comptez 34 au Mans, comme à Clermont-Ferrand d'ailleurs, 36 attendus à Lyon, voire 40 dans le Rhône et l'Isère. Alors, il va falloir tenir au moins jusqu'à dimanche.
Petite prévision pour le week-end.
Voilà,
rapidement.
Eh bien, écoutez, samedi, encore très très chaud. Et dimanche, une perturbation va arriver par l'ouest et va balayer toute cette chaleur et ça sera beaucoup plus respirable.
Les températures vont donc baisser. Juste avant le journal de 6h30 de Bernadette Chamonaz, j'en profite pour vous parler de cette soirée concert qui sera présentée ce soir par Rebecca Manzoni en direct du Festival Les Eurockéennes de Belfort avec Jane, Petit Biscuit, Devendra Benhart et Parcells, un superbe programme. Pour l'instant, il est presque 6h30, 6h30 sur France Inter. Le journal de Bernadette Chamonnaz. Bonjour Bernadette.
Bonjour. Frontal, le premier face-à-face Trump-Poutine aujourd'hui au G20 de Hambourg. Ukraine, Syrie, Corée du Nord, ingérence russe dans l'élection présidentielle américaine. Dossier lourd et des accords profonds. Comment attirer banques et assurances après le Brexit, salaire, fiscalité, la France déploie ses charmes. Série d'annonces aujourd'hui par le Premier ministre. Et puis les grandes vacances, c'est officiel, c'est aujourd'hui. Les écoles ferment, certaines malheureusement définitivement, pas assez d'élèves. C'est un reportage dans la Manche.
France Inter. Contexte international lourd, des accords profonds. Rarement un G20 n'aura ouvert dans un climat aussi tendu.
Bienvenue en enfer. Tout un symbole, ce nom donné par les anti-G20 à leur première manifestation hier soir à Hambourg, en Allemagne, où se tient donc pendant 2 jours ce sommet. Ça a commencé fort. Canon à eau, lacrymo contre jets de bouteilles et pierres. 76 blessés légers parmi les forces de l'ordre, 2 parmi les manifestants. 100 000 manifestants qui sont attendus. Face à eux, 20 000 policiers mobilisés. Et au cœur de la ville barricadée, les chefs d'État des 20 pays les plus riches de la planète. Dès le premier jour, il y aura donc ce face-à-face marquant, Poutine-Trump, qui ne se sont jamais rencontrés. Ce sera cet après-midi, ils ne seront pas seuls, entourés de leurs conseillers, alors que les relations entre Moscou et Washington sont au plus bas. En guise de préambule, pas très encourageant ces mots de Donald Trump hier en Pologne. La Russie a un comportement déstabilisateur. Philippe Randé, vous êtes notre correspondant à Washington. Il est loin le temps où le président américain n'avait que douceur et attention vis-à-vis de son homologue russe.
Un homme brillant et plein de talent. Voilà comment Donald Trump avait qualifié Vladimir Poutine il y a quelques mois. Mais sa promesse d'une relation plus constructive avec le président russe semble plus que jamais difficile à tenir. Philippe Lecor est chercheur à la Brookings Institution à Washington. Et selon lui, Donald Trump va devoir se montrer fort aujourd'hui.
Trump va rappeler la position américaine sur l'Ukraine vis-à-vis du régime syrien. La grande question, c'est l'avenir de Assad. Là, peut-être que les Russes pourront faire un geste. Si Trump arrive à faire passer un message à Poutine, on dira, voilà, par rapport à Obama, Trump a obtenu des concessions et c'est maintenant une ère un peu nouvelle qui s'ouvre.
Et le dossier nord-coréen ?
Je pense qu'ils vont en parler. La Russie a une ambassade, elle a des relais historiques avec Pyongyang. C'est peut-être une carte à jouer. Très honnêtement, par rapport à la carte chinoise, elle me semble faible.
Et ici, une question revient dans tous les médias. Est-ce que Donald Trump, qui a souvent tendance à improviser, est-ce que Donald Trump va aborder le dossier de l'ingérence russe dans l'élection de 2016 ? Hier, il a affirmé que la Russie, comme d'autres pays, ont pu s'immiscer dans l'élection présidentielle. De nombreux membres du Congrès lui demandent d'aller plus loin et de sermonner Vladimir Poutine à ce sujet. Washington, Philippe Randé, France Inter.
Trump-Poutine, le jeu des 7 différences, c'est un dossier à retrouver sur notre site franceinter.fr. Alors côté français, on insiste sur le dialogue, au contraire, avec Moscou. Rencontre Le Drian Lavrov hier à Paris, lutte contre le terrorisme. Pour le combattre, il faut mettre de côté tout le reste, insiste même le ministre russe des Affaires étrangères. Les armes chimiques en Syrie, Moscou comme Paris, se dit très opposé à leur utilisation, d'accord pour le démantèlement, mais Moscou continue à nier toute attaque chimique du régime Assad. La Syrie, mais aussi l'Ukraine, la Corée du Nord et le plus dur sans doute des discussions au G20, celui sur lequel la France se veut en pointe, ce sera le dossier du climat. Et là, les 19 feront sans doute corps face à Trump, isolé depuis qu'il a annoncé son retrait de l'accord de Paris.
Retour en France en ce moment, évacuation du camp de migrants de la Porte de la Chapelle à Paris.
Tout se passe dans le calme. Quelques 1200 migrants qui ne trouvaient pas de place dans le camp saturé, installé par la mairie. C'était donc installé dans ces campements de fortune dans ce quartier du nord de la capitale. Les rats, la gale, des conditions indignes. Évacuation donc menée actuellement par 350 policiers ainsi que une centaine de personnels de l'État. Une fois mis à l'abri, assure la préfecture, les migrants seront orientés vers un dispositif d'accueil qui est sur l'ensemble du territoire. GMES baisse de tension. Les salariés de l'équipementier ont levé leur blocage du site de PSA dans l'Allier hier soir. En échange, promesse que tous les points qui posent question seront discutés à Bercy lors de la réunion du 11 juillet avec l'ensemble des acteurs du dossier. PSA, Renault, le repreneur GMD, l'État et les syndicats. Volume de commandes, accompagnement social, indemnité des salariés non repris et surtout peut-être plus d'emplois sauvés que prévu. Une fourchette entre 140 et jusqu'à 240 emplois sauvés sur les 277 au lieu des 120 qui avaient été proposés initialement par le repreneur. Mon ennemi, c'est la finance. C'était il y a 5 ans, c'était un autre temps. Aujourd'hui, banque, assurance, Paris rêve de devenir leur capitale européenne. Le Brexit, une belle occasion à ne pas manquer, surtout ne pas se faire doubler par Francfort ou Amsterdam. Alors ce midi, le Premier ministre annoncera un plan assez concret, Célia Kyrey, qui s'inspire du rapport du sénateur Les Républicains, Albéric de Montgolfier.
Selon ce rapport présenté il y a un mois, la France ne peut pas attendre. Si elle veut séduire les futurs exilés du Brexit, c'est maintenant. Paris peut espérer attirer 30 000 à 100 000 salariés du secteur de la finance. Pour cela, le Premier ministre pourrait notamment choisir d'alléger les charges sur les très hauts salaires. Aujourd'hui, pour un salarié des banques ou des assurances payé 250 000 euros par an, son entreprise paye 10 fois plus de charges en France qu'en Allemagne. Le rapport du sénateur Albéric de Montgolfier préconise donc de supprimer tout simplement la dernière tranche de la taxe sur les salaires. Cela coûterait un peu plus de 130 millions d'euros à l'État, mais ce serait le prix à payer pour concurrencer Francfort. Ce rapport propose également de réduire la taxe sur les transactions financières ou de fixer un plafond pour les indemnités prud'homales. Le Premier ministre pourrait donc dévoiler un plan assez ambitieux. Par ailleurs, Bruno Le Maire va au-delà du volet économique. Il promet de nouveaux lycées internationaux et des classes bilingues pour attirer également les familles d'expatriés.
Célia Kyrey, le retour du jour de carence pour les fonctionnaires, annoncé hier par le ministre du Budget, Gérald Darmanin, pour qui le micro-absentéisme aurait coûté à l'État 170 millions d'euros. Entrée en vigueur donc de ce retour du jour de carence début 2018, après vote du Parlement. Et puis autre potion amère pour les fonctionnaires, la confirmation hier par le ministre de 120 000 postes supprimés au moins sur le quinquennat. Retenez le au moins.
Dernier rire, dernier cri d'enfant dans les cours de récré.
Dernier jour d'école avant les grandes vacances. Elle commence officiellement ce soir. En général, c'est jour de joie, mais à RL, commune de la Manche, 500 habitants, ce jour a un goût amer, car c'est vraiment le dernier. Dans le cadre du regroupement de 6 communes, l'école rejoindra un autre village, à quelques kilomètres de là, pas loin donc, mais à RL, c'est une page qui se tourne. Le reportage de Lucie Thuyer de France Bleu Cotentin.
Ça fait très bizarre.
Ça va être triste. Dommage.
Les cartons qui s'entassent, toute l'école a déménagé. C'est une sensation bizarre, disent les enfants. On a retrouvé ici des registres de 1850 lorsque l'école a été rénovée il y a 10 ans. C'est vous dire si elle est ancienne, sourit Carole Vanier, leur institutrice.
Ça fait un petit pincement au cœur parce que c'est une école très ancienne à laquelle on s'est attaché. Avec ma collègue, on est là depuis très longtemps. On connaît toutes les familles, on a eu les grands frères, on a eu les grandes sœurs. Donc effectivement, ça fait très bizarre.
Un peu de mélancolie aussi chez les habitants, comme Françoise qui a connu les de cette école dans les années 50.
Ça fait toujours un pincement au cœur, mais qu'est-ce que vous voulez y faire ? C'est le moderne, il n'y a plus le choix. On est une petite commune de rien du tout. Hein.
À la sortie, les parents sont plus divisés. Il y a ceux qui regrettent.
C'est dommage, oui. J'aimais bien le côté petite école.
Ça m'embête un petit peu parce qu'on est auprès de la maison. Il va falloir que j'aille un petit peu plus loin. 8 km alors que là, j'étais à 1 km.
Une école, ça fait partie, oui, de la vie de la commune. Comme les médecins, comme les commerçants. Et si tout ferme, eh ben la commune meurt.
D'autres, comme Laetitia, sont satisfaits.
Pour moi, c'est plus pratique parce que 4 sites, ça faisait beaucoup quand même. Même au niveau du car, c'est tout un système d'organisation.
4 sites pour une seule école, c'était trop, juge aussi le maire d'RL, Jean-Pierre Brantone, avec de la nostalgie dans la voix. Ce n'est pas évident, dit-il, car ça a été aussi mon école. Lucie Thulé, France Bleu Cotentin pour France Inter.
Le Tour de France, l'Allemand Kittel, le plus fort au sprint, il l'a montré hier à l'arrivée à 3, mais pas mal du tout, le Français démarre. Deuxième, dans un sprint net cette fois, net et sans bavure. Les coureurs ont retenu la leçon, Peter Sagan, Arnaud démarre, donc le grand espoir français du sprint. On l'attend encore aujourd'hui à l'arrivée à Nuit-Saint-Georges sous des températures caniculaires, 35 degrés et à l'ombre en plus.
C'était le journal de Bernadette Chamonaz, la route, Laurent Borde, d'un accident dans la Somme.
Oui, un poids lourd est accidenté sur la 28 entre Abbeville et Rouen, direction de Rouen, niveau de Huppy. La voie de droite et la bande d'arrêt d'urgence sont neutralisées. Et puis en région parisienne, en raison de l'évacuation d'un camp de migrants, les accès vers la porte de la Chapelle et Paris Centre depuis le périphérique dans les deux sens, ainsi que depuis la 1, sont fermés. À noter également qu'en raison du premier jour de vacances scolaires, la journée est classée orange dans le sens des départs et rouge rouge pour l'Île-de-France. Si vous le pouvez, évitez de quitter l'Île-de-France après midi. Évitez aussi de quitter les grandes métropoles entre 16h et 20h, ainsi que de circuler sur l'A7 entre Lyon et Orange entre 10h et 19h.
Selon Newton, dans un référentiel galiléen, la somme vectorielle des forces extérieures exercées sur un système ponctuel est égale à la dérivée du vecteur quantité de mouvement de ce système par rapport au temps.
Si vous retenez ça, alors vous n'aurez aucun mal à retenir qu'au CIC après le bac, on offre 160€ aux mentions très bien, 80 aux mentions bien et 40 aux mentions assez bien. Il vous suffit d'ouvrir un livret d'épargne dans l'une de nos agences avant le 30 septembre. CIC, construisons dans un monde qui bouge.
Vous aimez être à la pointe du chic ?
DS Automobile présente DS3 Connected Chic.
Avec ses jantes alliage diamanté, sa navigation tactile, sa caméra de recul, sa robe biton et son pavillon flottant, cette citadine produite en France combine merveilleusement élégance et technologie.
DS Automobile.
Jusqu'au 31 juillet, pour l'achat de DS3 Connected Chic, DS Automobile reprend votre véhicule 3 000€ au-dessus de sa valeur. Détails de l'offre sur dsautomobile.fr.
France Inter. On aime. On aime. On vous en parle.
France Inter présente Le Caire Confidentiel. En janvier 2011, au Caire, quelques jours avant la Révolution, une chanteuse célèbre est assassinée. L'inspecteur Nouridine réalise que les coupables pourraient être liés à la garde rapprochée du président Moubarak. Le Caire Confidentiel, un thriller politique de Tariq Saleh, actuellement au cinéma, un film France Inter.
6h42.
France Inter. Stéphane Leneuf. Le carrefour du 6-7.
Et le carrefour du 6-7, comme tous les vendredis, avec Frédéric Pommier et son dernier carrefour culturel en forme de bilan, le feuilleton musical de l'été avec Magic Elvis. Et nous terminerons avec Frédéric Sigrist, le menu de Blockbuster. C'est tout à l'heure à 11h sur France Inter. Mais d'abord avec vous, Sophie Bécherel, le futur proche, les innovations scientifiques qui vont changer nos vies. Bonjour Sophie.
Bonjour.
Alors à défaut de créer des emplois de masse, les drones sont de plus en plus performants. Leurs concepteurs ne manquent pas d'imagination.
Des drones pour localiser les incendies, des drones pour surveiller les plages de Biscarros, Lacano et Messanges cet été, des drones pour produire du courant, pour mesurer la pollution de l'air, pour cartographier un réseau de grottes souterraines. En effet, les usages sont sans fin avec le matériel existant. Ce qui n'empêche pas les ingénieurs d'imaginer de nouvelles machines, comme ces Toulousains d'Airborne. Ils ont pensé Drop and Drone, un engin aéro-largable. Unique au monde, accroché à un parachute, il est largué donc avec son conteneur depuis un hélicoptère ou un avion. Le conteneur s'ouvre, les ailes du drone jusque-là repliées dans l'axe du fuselage se déploient. La machine pivote et elle est prête à commencer sa mission.
Mission de surveillance essentiellement.
Oui, dans des situations critiques, notamment par exemple la surveillance de la mer en cas de catastrophe, d'un volcan sur le point d'entrer en éruption ou d'une centrale nucléaire type Fukushima après un accident. Et pourquoi pas en cas de prise d'otage, alors que l'avion ne peut rester longtemps sur zone faute de carburant, demander au drone de prendre le relais, histoire de ne pas lâcher des yeux ses otages. Son autonomie est de 12 heures, il est plus discret. Déjà les militaires se disent intéressés. Dans tous les cas, il faut positionner à proximité de quoi récupérer les données.
Alors cette même start-up a aussi développé un drone à fonctionnement hybride.
Il décolle à la verticale, comme un hélicoptère, puis vole à l'horizontale, comme un avion. Ce mouvement de transition, comme on l'appelle, est techniquement difficile à maîtriser, d'autant que ce drone n'a que 2 moteurs. Tout est dans l'algorithme. Airborne affirme faire mieux que la NASA. L'entreprise a en tout cas convaincu un premier client prestigieux, encore anonyme, pour une première mission de transport. Ce drone est capable d'emporter 2 kg de charge. Il est en test. Il serait, c'est vrai, idéal pour livrer plus vite que n'importe qui un vaccin, un défibrillateur, un document important sur une zone isolée, une île par exemple.
Merci Sophie Bécherel, c'était votre chronique Futur Proche. Le carrefour de la culture, dernier numéro de la saison avec vous Frédéric Pommier, bonjour.
Bonjour.
Grosse pointe de nostalgie ce matin.
Petite pointe de nostalgie et un petit clin d'œil à celles et ceux qui ont participé à la fabrication de cette chronique. C'était il y a 3 ans. C'était un 29 août. Premier numéro du Carrefour de la culture. Alexandra Hakoun était venue en scout. Elle s'est donnée à fond durant cette aventure.
Je me souviens de tout ce que j'ai raconté. D'OQTV visée, coulisses de tournage. Et toi n'oublie pas que je viens de te prêter tous les DVD de la série Engrenage.
Non, je n'oublierai pas. Et je n'oublierai rien. Des préconisations pointues d'Eva Bétan. Auteur albano-belge ou turco-ivoirien, comédie sri-lankaise, drame d'Ouzbékistan.
J'aime le cinéma de Vera Cool et le minimalisme de Goris Maki. Ousmanov, Losnitsa, c'est pas du ciné cool, mais ça fait un tabac en Tchécoslovaquie.
Je me souviens des pièces vues par Stéphane Capron. Du théâtre public, du théâtre privé. Il y voit 18 fois par semaine environ. Il sait nous émouvoir, il nous a fait rêver. On a lu des BD avec Jacqueline Pétrose et des bouquins de poche à moins de 2 dollars. Des histoires d'amour, parfois à l'eau de rose. Des récits d'aventure ou bien de bons polars. Et j'ai pris note aussi des conseils littéraires que nous a prodigués Ilana Moryoussef. Elle est très appréciée du milieu des libraires. Ses critiques ne manquent jamais de relief.
Des livres, j'en ai des milliers dans mon bureau. Je vis dans les romans, j'aime les écrivains. Et même ceux dont je n'ai rien dit au micro, je les aime autant que toi, tu aimes le vin.
J'aime en effet le vin, mais moins que la radio. Et j'ai savouré les mots d'Isabelle Pasquier. Elle a vu des artistes au palais de Tokyo. Créateurs fascinants, bien plus que les banquiers. On est aussi allé naviguer sur la toile, où Christine Siméon a trouvé des pépites. Des films d'animation, mieux que la guerre des étoiles. Rien que d'y repenser, j'ai le cœur qui palpite. Et j'ai très envie de sauter comme un puceron en songeant à tous ces chanteurs multifacettes que nous a mis dans les oreilles Mathieu Culeron, tout en plaidant pour la mort des mini-chaussettes.
Faut éradiquer la mini-chaussette de la surface de la Terre.
Mais ce qui restera surtout dans ma mémoire, ce sont nos facéties. Ça oui, j'ai apprécié, ambiance de travail, très loin de l'assommoir, malgré les coups de fouet de Corinne Pellissier.
C'est vrai, je dois l'avouer, avec moi, ça file droit. Mais j'affectionne aussi le tarabiscoté. C'était ça le principe de ce carrefour, je crois, vis-à-vis de l'actu. Comme un pas de côté.
Petit pas pour sourire, par simple politesse. Même si la culture n'a rien d'un canular, elle appartient à tous, et pas qu'on vit comtesse. Et avec l'art, la vie est plus belle que l'art.
Merci Frédéric Pommier, toujours dans le rythme de l'actualité culturelle. Le bilan donc de 3 années de Carrefour culturel avec le concours de tout le service culture de France Inter. Frédéric, on vous retrouve demain et dimanche à 8h30 pour la revue de presse du week-end. En attendant, bel été et rendez-vous pour ce Carrefour culturel à la rentrée.
France Inter. Le 6-7.
6h49 minutes sur France Inter. Le feuilleton matinal et musical de votre été, hommage à la légende du rock, Elvis Presley. C'est Magic Elvis. Toute la semaine, Philippe Robin joue les guides dans le Fief du King à Memphis. Et ce matin, on accède à un lieu tenu secret, le premier étage de Graceland, la demeure du King.
Après plusieurs jours passés ici à Graceland, je me dis qu'il est temps d'aborder les sujets qui dérangent un peu. Par exemple, malgré tous les efforts des organisateurs, énormément de personnes qui visitent le domaine d'Elvis Presley repartent avec un grand regret, ne pas avoir pu monter au premier étage de la maison, là où se trouvent ses pièces les plus intimes et là où s'est déroulé le drame le 16 août 1977.
Ça, c'est vrai que c'est un petit peu frustrant, mais bon, il faut respect. Enfin, il y a le respect aussi, hein, étant donné que lui, il tenait à respecter son intimité. Ben, je pense qu'il faut respecter ça, quoi.
On se dit que ça devait être assez sympa du haut. Ouais, c'est sûr que bon, la visite serait sympa certainement aussi en haut. Je pense que bon, je sais pas pourquoi on peut pas visiter.
Mais... Il faisait pas monter ses amis dans ses appartements privés, mais les amis en bas, ils sentaient marcher. Tu sais, quand ils marchaient sur le plancher en haut, ça bougeait. Alors on savait qu'il était là.
I know you're a lonely woman, and I love you. Someone else is waiting, and he owns you. If he should ever wake up, show your story is straight love. If you talk in your sleep, don't mention my name.
J'ai envie d'aborder le sujet avec Louise Smith, la cousine d'Elvis qui arrive vers moi. Elle et son mari, Jean, habitaient Graceland. Louise me place face à la maison et me décrit le premier étage.
Nous avons vécu ici 5 années. La chambre d'Elvis est dans la partie droite et la nôtre était à gauche. Mon sentiment personnel, c'est que de laisser visiter le haut, ce serait manquer de respect à Elvis.
Plus loin, je croise Angie Marquise, la responsable de la préservation des effets personnels d'Elvis, qui m'explique les raisons officielles de cette restriction.
Le fait que le premier étage ne soit pas ouvert, ça rend la maison mythique. On a l'impression qu'Elvis vient de partir, comme à l'époque. Et dans les années 60 ou 70, le haut était privé. Personne ne pouvait monter, sauf si Elvis l'invitait personnellement. Nous préservons ce souhait aujourd'hui, donc je ne pense pas qu'on l'ouvrira.
Malgré sa bonne foi, Angie me laisse avec un doute. Je me demande si on ne garde pas cette carte maîtresse en réserve au cas où un jour la fréquentation viendrait à baisser. C'est vrai que ce serait un formidable appât pour faire revenir tous les fans à Graceland. Un célèbre commerçant de Memphis, Bernard Lansky, vient de fêter ses 80 printemps. Et sur un ton malicieux, il semble confirmer cette idée.
Ils vont l'ouvrir, ils en parlent. D'abord, il faut réparer et consolider l'escalier pour supporter le passage de tous ces gens. Et puis ensuite, ils ouvriront. Et ce sera fantastique, car encore plus de gens vont venir.
L'avenir dira qui a raison. En attendant de pouvoir visiter la chambre d'Elvis, les vrais fans du King réservent la leur dans l'hôtel situé juste à côté de la maison de leur idole. Hôtel qui appartient à Elvis Presley Enterprise, évidemment, et qui s'appelle, ça ne s'invente pas, le Heartbreak Hotel.
Well, since my baby left me, well, I found a new place to dwell. Well, it's down at the end of Lonely Street, that Heartbreak Hotel where I'll be just a lonely baby. Well, I'm so lonely, I'll be just a lonely, I could die. Although it's always crowded, you still can find some room for broken-hearted lovers to cry there in the gloom. I'll be just so lonely, baby. I'll be just so lonely. I'll be so lonely, I'll make it die. Now the bellhop's tears keep flowing, and the desk clerk's dressed in black. Well, they've been so long on the street, they'll never, they'll never look back and think it's so, they think it's so lonely, baby. Well, they're so lonely, well, they're so lonely, and they could die. Well, if your baby leaves you, you've got a tale to tell. Well, just take a walk down the street to Heartbreak Hotel.
Magic Elvis, série signée Philippe Robin. La radio suisse romande et les ateliers de création de Radio France associés à ce projet. Un projet initialement diffusé en 2007 à retrouver tous les matins d'été sur France Inter.
Bah pourquoi tu veux déménager? Vous venez d'arriver. Je croyais que tu l'adorais cette maison.
Ouais, mais on peut plus y vivre.
Bah elle est hantée ou quoi?
Non, on a été cambriolés.
Un cambriolage ne dure pas plus de 8 minutes. Ses conséquences, si.
Protégez votre foyer et vos proches avec le système d'alarme Verisure qui détecte les cambriolages avant qu'ils ne se produisent. Appelez vite le 3112 ou rendez-vous sur verisure.fr.
Partageons le tour avec Radio France.
198 coureurs au départ du Tour de France à Düsseldorf. Et tout autour, une logistique exceptionnelle pour retransmettre la compétition dans 190 pays. 60 km de câbles déroulés autour de 100 camions de télévision.
Le Tour, c'est également jusqu'à 8000 mètres de barrières installées chaque jour sur l'arrivée pour la sécurité des coureurs et des spectateurs.
Le Tour de France avec Vittel, eau officielle du Tour de France.
Le Tour de France du 1er au 23 juillet avec Radio France.
Radio France présente le Concert de Paris. L'Orchestre National de France, le chœur et la maîtrise de Radio France, dirigé par Valérie Gergiev, vous donne rendez-vous le vendredi 14 juillet au pied de la Tour Eiffel dès 21h15 pour un concert exceptionnel avec Nadine Sierra, Diana Damrau, Anita Ragvelishvili, Brian Himmel, Ludovic Tézier, Gauthier Renaud Capuçon, Sophie Janin. Un concert unique à vivre en direct sur France Inter et France 2 avec le soutien de la mairie de Paris. Le Concert de Paris, en partenariat avec Abritel.fr et l'Affaire.
Le temps.
La météo, avec Sarenza. Changez de chaussures comme de saison, avec 700 marques mode pour toute la famille. Sur l'appli Sarenza et sur
Sarenza.com.
Attention à la canicule, Marie-Pierre Planchon.
Oui Stéphane, toujours ces 8 départements du Centre-Est donc placés en vigilance orange jusqu'à samedi soir. Donc sont concernés les départements du Jura en descendant sur l'Isère et de la Saône-et-Loire au Puy-de-Dôme. On attend jusqu'à 38 aujourd'hui vers Grenoble, voire 40 dans ces régions. Bien sûr, les régions alentours, il fera extrêmement chaud, comme sur tout le pays, excepté sur la Pointe-Bretagne où l'air sera beaucoup plus respirable. On aura 23 degrés. Il faut dire qu'il va faire il a fait très chaud cette nuit, donc on n'est pas descendu en dessous des 23 degrés dans la région lyonnaise et parisienne. Ailleurs, en journée, comptez 28 à Lille, 29 à La Rochelle, 31 à Metz, à Besançon, il fera 32 à Paris et à Aurillac. Vous aurez 34 au Mans, comptez 36 à Lyon comme à Toulouse.
Et ce matin, quelques grisailles quand même.
Oui, des résidus des orages d'hier en fait qu'on retrouve ce matin dans l'Est, sur l'Alsace, la Lorraine, la Franche-Comté et la Bourgogne, mais aussi des nuages bas côtiers près des côtes bretonnes à la Vendée et du Pays Basque aux côtes du Roussillon. Alors autour de la Méditerranée, sous le soleil, vous aurez quand même des températures un petit peu plus acceptables. 27 à Nice, 29 à Perpignan, 32 à Toulouse, comme sous le soleil corse d'Ajaccio à Bastia. Et puis ça va monter jusqu'à 35 quand même à Marseille et 37 vers Montélimar.
Merci Marie-Pierre Planchon. Et juste avant 7h, c'est Frédéric Sigrist, le programme de Blockbuster. Votre émission, c'est tout à l'heure à 11h sur France Inter. Bonjour Frédéric.
Bonjour Stéphane. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de ces petites bêtes que les enfants ont tous ramenées au moins une fois chez leurs parents. Alors non, je ne vais pas faire une émission spécialement consacrée aux poux. Je parle bien évidemment des Pokémon. Impossible d'avoir échappé au phénomène, on a vu des reportages sur le sujet, on s'est interrogé sur la mode Pokémon Go qui s'est dissipée le temps de dire « I'm spinner !» On a vu nos gosses échanger des cartes en parlant un langage qui nous est inconnu, des conversations du genre « Raichu, il lance tonnerre, mais comme Karchakrok, il est type seul, et ben il est immunisé !» On a vu le dessin animé, le jeu vidéo, le manga. Aujourd'hui, on identifie Pikachu, la mascotte de Pokémon, quasiment aussi vite que Mickey Mouse. Et pourtant, il n'est pas rare que quand deux adultes se mettent à parler du sujet, il y en a un des deux qui disent « Moi, les Pokémon, j'y connais que dalle. Hein. » Donc ce matin, on va remédier à ça parce que Pokémon, il y a un paquet de gens que ça touche. Extrait.
Qui ne regardait pas ?
Ouais, quand j'étais petit.
Moi aussi.
Je n'aime plus Pokémon.
Moi, je pense que c'est un truc addictogène, en fait.
C'est un petit peu débile, un peu criard et ça va un petit peu trop vite.
Pikachu, le Pokémon principal.
Dragonfeu, parce qu'il est stylé.
Arceus, parce que c'est le créateur de Pokémon, je pense.
Les Pokémon et l'hamster, secret de leur pouvoir. Pokémon !
Ça fait partie des premiers dessins animés que j'ai vus.
Je pense que psychologiquement, ça me paraît être quelque chose d'inquiétant.
Quand j'étais petite, j'étais amoureuse de Salamèche.
Dracaufeu, parce qu'il a du charisme.
Quand j'avais 3 ans, je le regardais.
Et Pikachu, parce que j'ai quand même assez vieilli, donc je m'en rappelle plus des noms.
Je saurais pas dire, c'est depuis tout petit, mon préféré c'est Dracaufeu, du coup ça restera Dracaufeu.
Pikachu, parce que lui, l'électricité peut électriquiter tout le monde.
Pokémon, attrapez-les tous.
Salamèche, surtout Dracaufeu, parce que je sais pas, il fait partie de la première génération et c'était les Pokémon mythiques.
Quand les Pokémon ils sont forts, alors ils ont mal un peu.
Enfin, c'est des Pokémon déjà, ils sortent des buissons, ils viennent t'attaquer de nulle part. Bah, c'est normal que tu les captures. Faut les dresser un peu, non?
Non, ouais. Je trouve qu'ils sont un peu maltraités, quoi. Ils mériteraient au moins un refuge ou un truc comme ça, un petit zoo.
Quand on y pense, ouais, c'est quand même des dresseurs qui envoient d'autres personnages se faire tuer pour leur propre satisfaction. Mais quand on est gamin, on n'y pense pas, quoi. Pour nous, on veut juste des Pokémon et on s'en fiche de savoir s'ils se font mal ou pas, quoi.
Bah, quand même, ils sont un peu enfermés dans une toute petite boule. Je me sentirais claustrophobe.
Alors, qu'est-ce qui vous a motivé à consacrer une émission à ces petits monstres, Frédéric ?
Eh bien, parce qu'à une époque où on évoque de plus en plus les conditions de vie des animaux, où on s'émeut devant ces vidéos d'abattoirs, est-ce qu'il est finalement pas paradoxal de voir des enfants se passionner pour ce qui n'est finalement rien d'autre qu'un combat de coq version manga ? Alors attention, il ne s'agit pas de faire le procès de Pokémon, qui reste un formidable jeu, hein, quelle que soit sa forme, mais de s'interroger, tout simplement, sur le statut paradoxal de l'animal dans les jeux ou les dessins animés pour enfants.
Merci Frédéric, on vous retrouvera à 11h donc pour Blockbuster, c'est sur France Inter. C'est la fin de ce 6-7 à la coordination ce matin. Il y avait Philippe Lefébure, assisté de Julien Loclé, Armory Baucher, à la réalisation Dimitri Gronoff, Mathias Alléon, Bruno Barada et Lucie Lemarchand. À 7h sur France Inter, on retrouve Marc Fauvel. Bonjour Marc, c'est le 7-9.